J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans l'émission Roman Gar consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 35e édition de Roman Gar, j'ai le plaisir d'accueillir l'autrice burgienne de cœur et francilienne d'adoption Anouk Lejic. Dans le second livre, Copeau de bois, carnet d'une apprentie bûcheronne, est paru le 17 août 2023 aux éditions du Penseur. Anouk, bonsoir.
Bonsoir.
Tu préfères le mot autrice, romancière ou écrivaine lorsqu'on te présente?
Alors déjà pas romancière, parce que j'ai pas l'impression d'écrire que du roman. Ensuite autrice ou écrivaine, les deux me vont.
Bien. Alors, quelle place tenait la lecture et l'écriture lorsque tu étais encore dans l'un? C'est-à-dire
jusqu'au bac. Oh, bah une place importante. Hein. J'ai fait un bac L à l'époque. Et dans mon temps libre, je passais pas mal de moments de lecture. Je ne saurais pas dire un pourcentage, mais une bonne part.
Tu aimais déjà raconter des histoires et voyager avec les mots?
Raconter des histoires, plus ou moins, j'ai plutôt tenu des carnets où je notais des choses. Après, en dehors des rédacs, j'écrivais pas spécialement d'histoires.
Quelle relation entretenais-tu lorsque tu étais dans l'Ain avec la nature? Tu en étais déjà très proche?
Oui, j'ai du mal un peu à répondre à cette question. En fait, je me la posais pas à l'époque. On allait beaucoup se promener avec mes parents. Les 10 années que j'ai vécues à Bourg, j'étais en appartement, donc on jouait dans le parc du bas. Alors, était-ce la nature? Ça, c'est une vraie question. Et après, j'ai vécu quelques années à la campagne, du côté de Vona. Et là, vraiment, oui, ça a été pour moi un grand exutoire. Je passais mon temps dehors. Ça a été une grosse découverte pour moi.
Tu t'es toujours intéressée aux relations entre les êtres humains et leur milieu naturel, notamment les forêts?
Toujours non. Bon, j'ai souvenir qu'à cette époque de campagne, ma meilleure amie est vite devenue une certaine Carole, qui était fille d'agriculteur et d'agricultrice même. Les métiers-là me fascinaient à l'époque. Ensuite, je me suis intéressée à beaucoup de choses. Je dirais que c'est plutôt après la vingtaine que j'ai... Je ne sais pas, recommencer à me questionner sur plutôt d'abord au sujet des agriculteurs, qui nous alimentent, comment ces personnes-là travaillent le sol, et ensuite de fil en aiguille par la forêt aussi.
Tu as poursuivi des études littéraires et d'art, elles te sont forcément utiles lorsque tu écris?
J'imagine que mes lectures ont infusé en moi, enfin, ça c'est certain, et l'art aussi d'une certaine manière. Ça, c'est pareil, je le conscientise assez peu. Disons que je ne suis pas une autrice qui a des auteurs phares en tête quand elle écrit. Non, c'est pas trop ça. Après, l'art, disons que moi, j'ai surtout pratiqué la vidéo. Et ça m'a pas mal influencée dans ma pensée du découpage des textes. Et c'est-à-dire que j'aimais beaucoup le montage en vidéo. Et je pense notamment mon premier livre, Félix Silvestris, je l'ai vraiment écrit par petits blocs que je me suis amusée à monter. Il y avait presque des fondus par endroits. Donc ça, je pense que ça a plus joué.
Je parlais de voyage, tu es parti loin en Amérique du Sud puis en Afrique et tu as réalisé 2 documentaires au Pérou et au Sénégal, la jungle d'un côté et puis un jardin expérimental de l'autre. Alors comment as-tu vécu ces 2 expériences de vie?
Oula, vaste sujet au pluriel. Moi, c'était des années qui ont fort compté pour moi et qui m'ont mis le pied à l'étrier dans la création et dans le travail de la terre aussi. Ces 2 activités-là ont tout de suite été mêlées pour moi. Donc en Amazonie, j'étais dans un village de 200 habitants au milieu de la forêt et tout se faisait avec, dans, pour la forêt. Donc la moindre activité, c'était en même temps du jardinage, de la sylviculture, ce qu'on mangeait venait de là-bas. Et tout ça, je notais dans des carnets et puis je filmais aussi. Et au Sénégal, donc c'était en effet un jardin expérimental en permaculture. Et donc là, à nouveau, j'ai planté des choses, j'ai appris plein de choses aussi sur les plantes médicinales, nourricières, etc. Et je dessinais, je filmais, j'écrivais. Et puis ces 2 grands moments de vie ont été ponctués de plein de rencontres qui m'ont appris beaucoup de choses. Au Sénégal, il y avait aussi la musique qui était très importante, l'instrument de la kora que j'ai découvert là-bas. C'est sûr que ça a laissé plein de traces en moi, y compris dans la manière dont je regarde les espaces naturels aujourd'hui, parce que j'ai aussi ces autres modèles en tête qui sont restés.
Filmer, c'est aussi raconter des histoires. Quand as-tu envie de raconter la tienne à travers l'écriture?
Je racontais déjà un peu la mienne dans mes films, hein, je crois. Et puis, dans mon premier livre, je ne considère pas que je raconte ma vie, même si c'est inspiré de plein d'éléments de ma vie. Ce n'était pas ça le pacte, quoi. Ce n'était pas un pacte autobiographique. Dans mon second livre, Copeau de bois, carnet d'une apprentie boucheronne, là, on est dans un pacte autobiographique. Je raconte ma vie, mais derrière ça, c'était l'envie plutôt de raconter les forêts françaises et ce qui s'y passe, les travaux. Et en fait, je me suis prise moi-même comme cobaye, quoi. Je me suis envoyée en forêt et puis j'ai documenté ce qui se passait. Et comme il s'agissait de situer un peu ce que je racontais, je parle de moi aussi parce que mon point de vue n'est pas le même que mon voisin ou ma voisine. Donc forcément, je parle un peu de moi pour dire que ce que je raconte reste subjectif.
En 2017, tu intègres un master de création littéraire à l'Université Paris 8. En quoi consistaient ces études ?
Alors c'est un master, donc ça se passe à l'université pendant 2 ans. La petite particularité, c'était qu'on était une promo de 20 personnes à peu près. Donc c'était axé sur nos projets d'écriture respectifs. Chacun, chacune écrivait un texte pendant 2 ans. Enfin, ça pouvait être aussi plusieurs textes, des poèmes ou des nouvelles, peu importe. Et on avait des enseignants et des enseignantes qui étaient aussi auteurs-autrices, pour la plupart, qui nous accompagnaient dans l'écriture de ce projet. Et bon, un des temps phares, c'était les suivis de projet, où on se lisait les uns les autres, on se faisait des retours. Après, on avait aussi quelques ateliers d'écriture créative, mais assez peu en fait. Et puis, on avait aussi un cours qui consistait à rencontrer des personnes de l'écosystème littéraire et de parler de cet écosystème aussi, de comprendre comment ça fonctionne, les maisons d'édition, quels lieux font la littérature aujourd'hui, la maison de la poésie, ce genre de choses. Donc, c'était pour qu'on puisse peut-être se projeter en tant qu'écrivain-écrivaine dans ce monde.
Est-ce que tu avais besoin forcément de reprendre tes études ? Tu aurais pu écrire sans ?
Oui, en effet, je crois que j'avais besoin de me sentir légitime. Et puis j'avais besoin d'un statut social aussi. Après, en rentrant de voyage, t'es ni chômeuse, ni au RSA, ni quoi que ce soit. Puis je tendais pas à ça par ailleurs. Et en fait, j'avais aussi découvert entre-temps que ces masters existaient. Ils étaient tout récents. Là, ils ont maintenant peut-être 12-13 ans. Donc voilà, je me suis dit que c'était un bon endroit pour me lancer et pour me sentir sans doute moins seule aussi dans cette aventure.
Dès le début, tu avais une idée en tête du livre que tu voulais écrire ou ça a mûri avec le temps ?
Alors pendant le master, je suis arrivée avec des textes issus de mes voyages, plutôt de la poésie à vrai dire, et assez vite, pour des raisons personnelles, je pense que j'avais besoin de tourner la page sur ces voyages. Puis j'étais un peu rattrapée par une actualité à la fois politique et familiale autour des forêts. Et donc je me suis lancée dans cette fiction avec l'histoire d'une grande sœur qui est partie en forêt. Je me suis dit, avec ça, je vais pouvoir tenir 2 ans, ça m'a porté.
Qui dit écriture d'un livre dit édition. Comment es-tu arrivée aux éditions du penseur de notre ami Jérémy M ? Qui a convaincu l'autre ?
Réciproquement, je pense. Moi, je l'ai découvert dans ma librairie de quartier à Paris, dans le 19e. Il y avait à l'époque seulement le livre d'Isabelle Hopi. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de livres publiés, c'était vraiment dans les premières années. Et la couverture m'a interpellée, l'histoire d'Isabelle aussi. Et ensuite, en cherchant un peu sur Internet qui était cette maison d'édition, j'ai vu qu'ils étaient basés dans l'Ain, donc ça m'a fait un petit clin d'œil, quoi. Et ensuite, j'ai envoyé mon texte à Jérémy, qui m'a appelé assez vite, je pense en peut-être quelques semaines, un mois. C'était pendant le confinement d'ailleurs. Et on a pas mal discuté au téléphone. On était d'accord sur le fait qu'il y avait du travail sur ce texte. Mais il voulait bien me faire confiance et moi j'ai bien voulu lui faire confiance aussi. Et je crois que c'est sans regret réciproque, j'espère.
Ton premier livre, Félix Sylvestris, est paru le 11 janvier 2022 aux éditions du Penseur. Félix comme félin et puis Sylvestris comme de la forêt ou sauvage. Il n'est pas question de chat sauvage, mais du lien entre deux sœurs et de leur rapport à la nature. Le chat sauvage qui est en elle, il est quelque part en toi également.
Oh oui, sans doute, mais je suis un peu plus sociable que ce chat sauvage qu'on ne voit très très rarement de partout. Hein. Je n'ai jamais vu de chat sauvage et j'aimerais bien le voir. Oui, après, dans cette histoire, il est question d'aller vivre en forêt. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai plutôt choisi la voie du travail en forêt, qui est peut-être un peu moins radical. Enfin, voilà, c'est un autre prisme. Mais oui, de fait, la forêt est un endroit où je me sens très bien et qui est moins peuplé d'humains et je crois que j'ai besoin de ça.
Alors la forêt est déjà très présente dans ton premier livre, et presque d'une manière enfantine, puisqu'on y grimpe, on y fait des cabanes. C'est presque un rêve d'enfant qui se réalise.
Oui, un peu. Après, c'est un rêve d'enfant pris dans une lutte militante, donc qui prend une autre tournure, et de tournure que je n'ai moi-même pas prise dans ma vie, pour le coup. Mais oui, après, grimper dans les arbres et y faire un peu des cabanes, ça a fait partie de mon enfance chez mes grands-parents dans l'Ain aussi. On a beaucoup fait ça avec ma sœur et mes cousins-cousines, donc oui, j'ai un peu réactualisé ça aussi.
Félix Sylvestris a obtenu de bonnes critiques, est paru au Québec, et tu as été invité à de nombreux salons et séances dédicaces. Comment as-tu vécu cette reconnaissance littéraire ? Certaines reconnaissances littéraires, t'as été surprise.
Alors, Félix Silvestri, ça a une portée plutôt modeste, pour sans doute plein de raisons, mais en tout cas, les éditions du Penseur, à l'époque, étaient vraiment très peu connues. On venait tout juste d'être diffusées, on n'avait pas du tout de presse. Et en fait, c'est avec Copeau de Bois qu'il y a eu beaucoup plus de, disons, de retentissement. Et ça, c'est notamment dû au fait qu'on a eu de la presse. Ça, ça change un peu la trajectoire d'un livre. Sur Félix Silvestri, en fait, je suis très contente de la vie que ce livre a eu et a encore, parce que, comment dire, ça s'est fait de manière douce et dans le temps. C'était pas une grosse sortie et en 3 mois et ensuite on n'entend plus parler. Au contraire, c'est un livre qui continue sa vie petit à petit. Copeau de Bois a une sortie un peu plus remarquée et j'en étais assez surprise à vrai dire parce que ça parle quand même d'un sujet assez précis que sont les travaux forestiers. Et c'était un vrai pari pour moi comme pour mon éditeur de se dire que ça allait intéresser les gens. La forêt a loin en poupe, hein, depuis quelques années, ça c'est indéniable. Mais ce parti pris avec un texte en vers libre, bon voilà, c'était pas sûr que ça passe quoi. Et bon, et c'est passé. Et moi, après les rencontres, les salons, tout ça, c'est. Bah, je découvre aussi un monde. Moi, je suis curieuse d'à peu près tout, donc je suis contente de vivre ça. Et puis, en général, les gens qui m'invitent, enfin, qui invitent mes autres consoeurs et confrères, auteurs, autrices, sont contents de nous inviter. Donc, en général, ça se passe bien, on est bien accueillis quoi. Donc, bon, je peux pas me plaindre.
Alors, je te demande pas si cela t'a donné envie d'écrire un deuxième livre, puisque pendant que sortait Félix Silvestri, tu étais en formation d'un métier peu connu et essentiellement masculin, celui d'apprenti bûcheron et d'apprenti bûcheronne dans ton cas. D'où est venue l'idée, cette envie d'une telle formation ?
C'est un petit mélange de hasard et d'opportunités saisies. C'est-à-dire que je voulais me former en gestion forestière, ce que je fais en fait aujourd'hui. Mais à l'époque, j'en avais parlé à mon conseiller Pôle emploi qui m'avait dit que rien n'était finançable pour moi dans ma région en termes de gestion forestière et qu'en revanche, il existait ce brevet professionnel agricole en travaux forestiers, spécialité bûcheronnage, et que bon bah ça c'était une formation qui était financée par la région et ça m'était accessible en transport en commun. Sur le coup, ça m'a un peu impressionnée, je ne m'étais pas figurée que j'allais faire ça dans ma vie, de bûcheronner. Mais j'ai rencontré une femme qui était en train de terminer cette formation-là, qui me l'a très très bien vendue. C'est une ancienne agente immobilière, donc elle savait très bien, très bien vendre sa marchandise. Et c'était une femme qui était plus petite que moi, plus âgée que moi, qui avait 3 enfants. Bon, je me suis dit, si elle en est capable et qu'elle aime ça, alors je vais pouvoir le faire aussi. Et en effet, j'ai commencé en me disant, bon, de toute façon, si ça se passe mal, j'arrête. Et j'ai pas du tout eu envie d'arrêter.
Combien de temps a duré ta formation de bûcheronne et as-tu obtenu ton brevet professionnel en travaux forestiers ?
Eh bien oui, d'ailleurs je le dis dans mon livre, hein, même si l'examen final s'est pas très bien passé, j'ai obtenu mon BPA, ça a duré 11 mois en tout. Donc c'est pour ça que dans le livre il y a toutes les saisons, parce que ça commence à la fin de l'été, enfin à l'automne même, et ça finit à la fin de l'été.
Est-ce que tu avais déjà dans l'idée d'écrire un livre qui raconterait ta formation de bûcheronne, puisque tu tenais un carnet intime de ces moments ? C'était une évidence d'écrire sur ce moment de vie ?
Non, ça ne l'était pas. Je notais ce qui se passait parce que ça me faisait une matière intéressante que j'allais, dans ma tête à l'époque, je me disais que j'allais potentiellement en faire quelque chose, peut-être des articles, peut-être un essai, peut-être un roman, je savais pas. Et chemin faisant, ces notes ont constitué une certaine somme dont je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à tirer de manière assez directe parce que, je sais pas, c'était une matière qui me paraissait singulière et que moi, en tant que lectrice, j'aurais aimé lire ça. Donc je me suis dit, bon, peut-être que ça plaira à d'autres que moi.
Et puis ces fameux carnets qui ne te quittent pas depuis très 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 longtemps, là.
Oui, ça c'est une habitude que j'ai prise aussi parce que j'ai une très mauvaise mémoire, donc je sens que j'ai besoin de noter un peu des choses que je vis, que je vois, que je ressens, que j'entends, pour ne pas les oublier. Après, je relis jamais mes carnets, enfin sauf là quand j'ai écrit Copeau de Bois, mais au moins je sais que c'est là quelque part, c'est un peu mes disques durs externes, quoi.
La couleur de la pochette de Félix Silvestri, c'était le vert, comme l'une des couleurs de la forêt. Pour Copeau de Bois, c'est l'orange, oui, c'est de l'orange pour toi.
Ah oui, c'est du orange.
Hein, c'est de l'orange. C'est l'orange qui a été choisi, alors un peu comme la couleur du bois et du copeau de bois, ou elle a d'autres significations ?
Non, c'est surtout la couleur de la tronçonneuse de la marque Steel, qui est très promue dans le livre. On voulait faire un partenariat avec Steel, mais finalement, c'est pas lancé.
Ton deuxième livre, tu racontes ta vie d'apprenti bûcheronne. Tu aurais pu la romancer, en raconter une histoire sans que ce soit forcément ton histoire.
Oui, mais en fait, alors je sais pas si c'est par moindre effort. Non, je pense qu'en fait j'étais trop près de cette matière-là pour en faire quelque chose, ou alors peut-être qu'il aurait fallu que j'attende quelques années pour la transformer. Mais là, j'ai senti, c'était pas une urgence non plus à écrire et publier ce texte, mais en tout cas, il y avait quelque chose de très brut au jour le jour. J'avais cette matière Et je crois que si je l'avais transformé, ça aurait été plus faible. En fait, c'était un lot de plein de petits moments très précis qui, bout à bout, je crois, font ressentir ce que c'est. Ce travail forestier montre aussi un panel de personnages dans le livre qui vivent, travaillent en forêt. Et si j'en avais fait un roman, je crois que j'aurais perdu en fait, un peu de cette teneur très, très directe. En fait, avec cette forme d'auto-documentaire ou récit en vers libre, ou comme on veut l'appeler, je crois que ça me permettait d'un peu tout mélanger, toutes ces voix que j'entendais, tous ces lieux. Et en fait, je crois que j'avais plutôt envie d'en parler directement. Ça se passe en France, c'est situé pas précisément, mais en tout cas, on peut se faire une image, je pense, de ces différentes forêts que je parcours. Et finalement, ça m'allait comme ça. Je crois que j'avais pas besoin d'une trame narrative extérieure à ça.
L'écriture de Copeaux de Bois est singulière à la manière d'un carnet intime. Pas toujours de phrases, quelques rares points d'exclamation et d'interrogation, aucun point, aucune virgule ou pas de majuscule en début de phrase à part pour les noms propres. C'est tout sauf ce que l'on rencontre dans un livre traditionnel. Hein. Tu as l'impression d'avoir osé.
Oui, de fait, on me le renvoie parfois. Bah, je pense que c'est plutôt mon éditeur qui a osé le publier. Après, bon, je ne suis pas du tout la seule à écrire en vers libre. Ce n'est pas du tout moi qui ai inventé ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un peu un regain de ça dans la littérature francophone, contemporaine. En tout cas, moi, c'était vraiment la manière dont, comment dire, je n'ai pas fait d'effort pour aller chercher cette forme. C'est ce que j'avais de manière assez brute avec mes notes. Et que j'ai un peu retravaillé, bien sûr, pour avoir un rythme, des séquences qui puissent se suivre de manière lisible, quand même. Mais c'était, encore une fois, je pense que c'était pour moi un peu une histoire de moindre effort, en fait. Hein. J'avais cette matière et je l'ai gardée quasiment telle qu'elle.
Tu as écrit dans Copeaux de Bois, un peu à la manière, je trouve, moi, d'une poésie ou d'une chanson. Il y a parfois des rimes, j'imagine, bien involontaires.
Je ne me refuse jamais une petite rime, mais disons que je ne suis pas allée chercher beaucoup non plus.
C'est un livre qui peut se lire facilement lors de rencontres avec ton public. Il ne manque plus que la musique.
Ouais, alors je l'ai joué une fois avec une musicienne un peu bruitiste et électronique qui a son petit setup comme ça, qui fait plein de choses avec des objets et des loops. C'était une forme improvisée au Salon du Livre de Chaumont l'an dernier, mais il a pour l'instant pas d'autre forme musicale.
À ton grand regret ?
Non, bah en fait, je le trouve assez difficile à mettre en musique aussi, étant donné qu'il est déjà chargé de sons, de voix différentes. Je ne suis pas convaincue que tous les textes doivent être accompagnés de musique. Félix Silvestris, récemment, enfin au mois d'octobre, avec la Maison Grac, où j'ai été en résidence, je l'ai lu avec un harpiste. Mais j'avais fait le choix de choisir Félix Silvestris parce que pour moi, il pouvait mieux s'accompagner d'une ambiance musicale. Copeaux de Bois, je le trouve déjà très chargé et pas si facilement accompagnable.
Ton style dans Copeaux de Bois fait penser à ce livre du regretté Joseph Pontus, À la ligne. Lui, c'était intérimaire dans une usine agroalimentaire. Toi, dans le bûcheronnage, peut-on y voir des similitudes ou c'est un simple constat ?
Non, on peut y voir des similitudes. Enfin, en tout cas, j'en suis très flattée et puis je ne prétends pas être à sa hauteur ou faire comme lui, mais je l'aime beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup aimé son livre À la ligne. Et d'ailleurs, je pense que c'est une lecture qui m'a autorisée à écrire Copeaux de Bois. C'était pas de manière très consciente, mais d'avoir lu À la ligne, ça m'a... Oui, je pense que je me suis dit qu'il y avait une grande fraîcheur dans ce type de texte et que ça ressemblait à ce que j'écrivais dans mes carnets, en fait. Donc voilà, que je pouvais aller dans cette direction et que ça pouvait tenir. Et après, je le cite un moment dans Copeaux de Bois. C'est un petit clin d'œil que je lui fais, mais ça comptait pour moi.
À travers Copeaux de Bois, on découvre véritablement le métier de bûcheron qui ne consiste pas uniquement à couper des arbres. Il y a un côté très pédagogique dans ton livre.
Oui, comme je raconte une formation, de fait, je transmets les enseignements. Après, je pense qu'on ne peut pas le prendre comme un manuel non plus. Enfin, ou alors, il est un peu trop lacunaire. Mais bon, des personnes me disent quand même qu'elles ont appris des choses en lisant et que ça leur donne envie de débroussailler ou de couper du bois. Donc, pour moi, il y a déjà une petite victoire là-dedans.
Copeaux de Bois est bien plus que les carnets d'une apprentie bûcheronne. On y croise des personnages hauts en couleur, accidentés de la vie, désabusés du monde, nostalgiques d'hier, inquiets de demain. Le monde du bûcheronnage est à l'image de ce métier, pas comme les autres, et où l'on côtoie des gens pas comme les autres.
Oui, bon, après, je pense que si on va chercher dans tous les métiers, il y a des gens pas comme les autres. Disons que la différence avec les bûcherons et les bûcheronnes, hein, c'est qu'ils et elles sont une grosse partie du temps dans les bois, et donc on les croise un peu moins. Ensuite, on dit souvent que les forestiers et les forestières sont des personnes qui choisissent la forêt, donc qui ne choisissent pas la forêt pour rien. En effet, je pense qu'il y a en commun cette envie d'être un peu coupé des humains quand même, d'être dans d'autres préoccupations, dans d'autres échelles temporelles aussi. Bon, après, il y a vraiment, comme dans tout métier, comme dans la vie, quoi, il y a vraiment tout type de personnes. Hein, mais disons qu'il y a cette sorte de pas de côté que je constate chez tous les collègues que je côtoie.
Lors de ton apprentissage de bûcheronne, tu as côtoyé beaucoup d'hommes avec des mentalités d'hommes. Qui a eu le plus de mal à s'adapter à l'autre, toi ou les hommes ?
Alors, je pense qu'on s'est pas mal entre-adapté et entre-adopté aussi. J'essayais de pas trop me préoccuper de ce que ma présence leur faisait. Pour moi, j'étais tout à fait légitime à être là et ça s'arrêtait là. Donc, ensuite, je travaillais, j'essayais d'être une bonne apprentie. Pour moi, j'étais plus dans cette grille de lecture-là, c'est-à-dire que j'étais apprenante. J'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin qu'on m'enseigne et j'avais besoin de faire mes preuves aussi. Après, dans ces moments-là, je pense que j'étais ni une femme ni un homme. J'étais quelqu'un qui essayait de travailler en forêt. Et après, ça s'est globalement quand même très bien passé avec mes collègues, parce que le fait de partager une activité, je pense que déjà ça coupe court aux conversations. De toute façon, un casque sur la tête et une débroussailleuse ou une tronçonneuse à la main, donc ça fait du bruit. Donc, on n'est pas dans des interactions quotidiennes. Puis ensuite, avec un peu d'humour et un peu d'ouverture, en général, ça passe.
Tu as rencontré plein de collègues avec des vies compliquées et qui n'avaient pas forcément choisi le métier de bûcheron au départ. Ils se confiaient plus facilement à toi, une femme.
Je dirais qu'il se confiait à moi une écrivaine aussi, parce que je le signalais à chaque fois. Après, bon, moi, j'oubliais que j'étais écrivaine quand j'étais dans les bois, et eux aussi sans doute. Bon, peut-être que le fait de le dire au début fait que ces personnes savaient que j'étais, oui, quelqu'un qui avait une oreille attentive. Et après, sans que ce statut intervienne, oui, moi, je pose beaucoup de questions et je suis à l'écoute, donc ça mène les gens à se confier. Et d'ailleurs, mon livre ne contient vraiment pas du tout toutes les conversations que j'ai eues avec ces personnes, et quand je considérerais que des choses appartenaient vraiment à leur vie privée, voilà, ça n'apparaît pas dans mon livre et c'est bien comme ça. Mais après, tu l'as dit, oui, ce sont des personnes qui... Enfin, je reviens un peu sur ce que je disais à la question d'avant. Ce sont des personnes qui n'ont pas toutes exactement choisi d'être en forêt. Certaines y sont venues un peu par de biais, quoi, par le fait qu'ils étaient conducteurs d'engins, par exemple, ou parce qu'après la tempête de 99, il y a eu du boulot. Et donc, qui se sont intégrés à la forêt petit à petit. Et donc, pour certains, c'est pas une passion première, mais finalement, ils y ont trouvé un endroit où rester. Bah, ça, sans doute que ça dit quelque chose d'eux aussi, puis ça dit quelque chose du monde du travail qui ne leur a pas proposé d'autres options non plus.
Dans Copeaux de bois, tu parles régulièrement de l'ONF, hein, l'Office National des Forêts, qui gère les forêts, protège l'environnement, accueille le public, valorise les espèces naturelles et la ressource en bois et innove pour relever les défis du 21e siècle. C'est eux qui le disent sur leur site internet. Hein. L'État a réduit considérablement leurs effectifs et il est plus question de rentabilité et de bois coupé que de protection de l'environnement. La forêt est aujourd'hui en danger.
Oui, bah alors il y a plein de questions dans ces questions. Alors déjà, dans mon livre, je parle de l'Office. Oui, il s'agit de l'ONF. Je dis jamais ONF en entier. Bon, c'était peut-être simplement pour moi, pour me dire que je ne les nommais pas spécifiquement.
Mais c'est bien eux.
Mais oui, c'est bien eux. La forêt est en danger. Oui et non. Nous, humains, nous sommes en danger. Nous, humains, nous voulons toujours plus de bois. Donc nous mettons cette forêt en danger de nos pratiques. La forêt se régénère. Elle se dessèche aussi. Elle dépérit à plein d'endroits. Mais elle se régénère aussi. Et en fait, c'est simplement que ce sont des cycles qui n'ont rien à voir avec nos cycles de vie humaine. À notre échelle de vie, oui, on peut considérer qu'elle est en danger, mais en fait, si on apprend aussi à regarder tout ce qui se passe au sol, toute la résilience qu'elle met en place, en fait, on voit qu'elle a sans doute plus de ressources qu'on veut bien le croire, qu'on veut bien le voir. Je suis loin d'être optimiste, hein, mais par contre, là, le fait de travailler en forêt, notamment ces jours-ci, quand on prend le temps en fait, de regarder tout ce qui se passe à tous les étages d'une forêt, on voit qu'il y a encore des formes de vie qui persistent, des nouvelles qui arrivent, et ça donne de l'espoir.
Si la forêt est en danger, le métier de bûcheron et de bûcheronne l'est aussi.
Pas tout à fait, parce que en fait le bois mort génère plein de travail. Enfin, le bois dépérissant en fait qu'on coupe les arbres là ces temps-ci, là ces années. Le bois qui sèche sur pied, qui meurt sur pied, ça fait qu'on coupe beaucoup plus vite que prévu. Mais du coup, on a besoin de bûcherons pour faire ce travail-là, et donc on manque plutôt de bûcherons et de bûcheronnes en ce moment.
Et si on manque de moyens?
Et si on manque de moyens, on peut laisser les arbres mourir sur pied et ça fait des habitats pour les insectes, pour les oiseaux. C'est une bonne idée aussi.
Et s'il y a moins de moyens, il y aura moins de bûcherons et de bûcherons?
Oui, sans doute. Après, les moyens, c'est comme pour tout. Il s'agit de se demander où on les met. Après, une forêt, vraiment, si on n'y touche pas, il ne va rien se passer de grave, en fait. Enfin, les arbres perdent de la valeur, dans le sens où si on ne les récolte pas tout de suite, ils vont vraiment mourir complètement et sécher complètement sur pied. Et là, ils ne seront plus utilisables comme bois d'œuvre. Mais par contre, ils auront une forte valeur écologique et c'est très bien de les laisser en forêt aussi. En fait, pour moi, ils gagnent aussi de la valeur à rester en forêt comme ça, si on ne les touche pas.
Dans ton livre, tu parles tour à tour de sexisme, d'intersexualité, de souffrance animale, de la chasse, d'économie, d'écologie, de racisme et de tolérance. Tu pensais retrouver tous ces sujets lorsque tu as débuté ta formation ?
À vrai dire, oui, parce que pour moi, la forêt, c'est pour ça que ça m'intéresse autant aussi, ou le fait que je m'y sens très bien. C'est un lieu où tout se mêle. Je trouve que ça cristallise beaucoup d'enjeux politiques, beaucoup d'enjeux écologiques. C'est un lieu, et puis c'est une grosse zone de notre imaginaire aussi. Donc c'est un lieu qui fait se mélanger tout plein de questions. Moi, j'étais en Île-de-France pour ma formation, et où je vis d'ailleurs. Les forêts sont parcourues par beaucoup de publics. Et ça, forcément, pour moi, c'est un terrain d'investigation vraiment intéressant, parce qu'on a d'un côté des humains urbains, urbaines, en quête d'espaces naturels qu'on ne veut pas voir gérés, en fait. Et de l'autre côté, ben, des personnes qui bossent en forêt, qui savent que les forêts, oui, sont gérées, qu'elles sont soumises à des plans de gestion, qu'elles sont soumises à des travaux réguliers pour qu'elles aient cet aspect-là que le public souhaite. Et donc rien que ça, c'est déjà un endroit de frottement très intéressant, quoi. Ça sera le sujet de mon prochain livre d'ailleurs, donc je continue de me questionner là-dessus.
Cette formation a-t-elle confirmé, si jamais tu avais un doute, que tu es vraiment plus à l'aise dans la nature que dans les villes ?
Oh, bah, je suis à l'aise en ville, à vrai dire. C'est juste que j'ai besoin des deux. Vraiment. En ville, moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité des formes de vie humaines. Et en forêt, c'est la diversité des formes de vie autres. De toute façon, les deux se côtoient. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans Copeaux de Bois, d'ailleurs, en parlant de mes allers-retours en RER. C'est pour dire que ces espaces-là sont vraiment l'un contre l'autre. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'essaye de les relier, de moins les opposer possible, parce que je trouve que cette opposition ne crée rien de bon.
Tu as entamé donc un BTS en gestion forestière et puis tu effectues actuellement un stage auprès d'un technicien dans l'Ain, entre Bûcheronne et Autrice. Ton cœur balance ?
Mon cœur, il est plutôt entre la forêt et mon bureau. Après, Bûcheronne, je ne le suis pas, je ne le suis plus. Enfin, je ne l'ai jamais été professionnellement. À l'issue de ma formation, en fait, l'écriture a repris beaucoup de place et ma vie d'autrice aussi, c'est-à-dire les rencontres, tout ça, les lectures. Là, actuellement, mon stage en gestion forestière me ramène en forêt, mais d'une autre manière. Ça n'exclut pas des travaux manuels. Là, aujourd'hui, on a fait de la plantation, par exemple. Mais il y a moins de tronçonneuses. Je continue d'aimer couper des arbres et surtout de savoir pourquoi je le fais et comment je le fais. Par contre, c'est pas une activité quotidienne. Donc là, clairement, la balance, ces dernières années, a penché du côté autrice. Mais voilà, peut-être que plus tard, je reprendrai un peu plus la tronçonneuse.
Avec ce BTS, quel est ton métier ? Quel serait ton métier ?
Mon métier serait gestionnaire forestière.
Tu étais en septembre 2024, tu en parlais, en résidence d'écriture entre Nantes et Angers dans la maison Julien Gracq. Il y aura une suite à Copeaux de Bois, y aura-t-il forcément un troisième livre ?
Alors, ça ne sera pas une suite à Copeaux de Bois. Par contre, oui, ça sera un troisième livre qu'effectivement, j'ai commencé à travailler là-bas. Enfin, que j'avais même commencé à travailler avant. Pour l'instant, j'avance pas beaucoup dessus parce que je suis très prise par divers projets, dont mon BTS, qui me prend pas mal de temps. Parmi ces projets, je travaille avec une coopérative qui s'appelle Dire le Travail, à la coordination d'un recueil où des forestiers et des forestières racontent à leur tour leur métier. Là, ils sont une douzaine à écrire des textes courts pour parler de leur métier. Et nous, avec deux collègues de la coopérative Dire le Travail, on les accompagne dans l'écriture. Et l'idée, c'est d'en faire un livre. Donc ça, c'est là, j'ai plutôt une casquette d'éditrice en maison d'édition, mais en tout cas de relectrice, de correctrice. Voilà, ça m'occupe pas mal et ça me passionne aussi. Ce qui fait que l'écriture est un peu de côté, mais il y a quand même un troisième livre qui sera un roman en cours et qui se passe aussi en forêt, comme je disais, dans une forêt urbaine.
Bien. Tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le cœur, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances de dédicaces dans la région proche. Anouk, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Là, j'avais pas préparé la question. Je sais pas si c'est le dernier, mais celui qui me vient en tête, c'est un livre de Paolo Milone, un livre italien traduit en français. Alors, j'ai le regret de ne pas me souvenir du nom entier de la traductrice, parce que je la connais sous le surnom de Manu, parce que c'est une personne que je connais, la compagne d'un ami. Ce livre s'appelle « L'art de lier les êtres ». Et c'est un livre en vers libre, écrit par un psychiatre, donc Paolo Milone, qui raconte sa carrière en psychiatrie, ses pratiques en psychiatrie qui ont changé, qui sont sujets à controverse aujourd'hui. Et surtout, c'est un livre qui, à travers son métier, qui révèle une personnalité que je trouve très très belle, très touchante. Et c'est un peu comme Joseph Pontus, en fait. Il y a quelque chose de très, à la fois de la drôlerie, de la tendresse, une profondeur mélancolique aussi qui se dégage de ses carnets en vers libre. Et c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup touchée.
Alors, côté proposition de la quinzaine, notons Le polar de Jean-Luc Banalek, Vendange mortelle à Pronique aux éditions Presse de la Cité, le thriller de Jérémy Claes, Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson, le roman de Laure Manel, Nos étoiles filantes aux éditions Michel Lafon, le thriller d'Andrea Mara, Toutes ses fautes aux éditions Point, le roman de Karine Thuil, La guerre par d'autres moyens, aux éditions Gallimard, le thriller d'Olivier Décosse, L'heure des fauves, aux éditions XO, le polar de Christophe Molmy, Comme un papillon, aux éditions de La Martinière, le livre de Claire Marchal, Le Cube, aux éditions Flammarion, le polar de Jérémy Bouquin, Lazare, aux éditions Cubique, le thriller de Yann Manouk, Débâcle, aux éditions Paulsen, le roman de Delphine Giraud, Plus vaste que le monde, aux éditions Fleuve Noir, le thriller de Stephen King, Plus noir que noir, aux éditions Albin Michel, et le polar de Catherine Engberg, classé sans suite, aux éditions Fleuve Noir. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. Anouk, te verra-t-on prochainement dans la région proche ?
Eh bien non, pas dans la région proche. On pourra me voir à Metz, au Val d'Azun, et je ne sais plus quel autre festival, à Avon, vers Fontainebleau, mais pas dans la région Rhône-Alpes. Avis aux amateurs et aux amatrices.
À la rentrée prochaine peut-être ?
Pour le prochain livre ?
Pour le prochain livre. Du côté des séances dédicaces, le vendredi 9 mai 2025 à la librairie Montbarbon à Bourg-en-Bresse, Franck Tilliez à 19h30, mais vous pensez bien, c'est complet. Et le jeudi 15 mai 2025, à l'Horizon Piano à Paul-Émieux au Mont-d'Or, dans le Rhône, Sylvie Calais à 19h. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Anouk Lejzik, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare. Rappelons que ton second livre, Copeaux de bois, carnet d'une apprentie bûcheronne, est paru le 17 août 2023 aux éditions Du Penseur. On peut se procurer ou, sans oublier, ton premier livre, Félix Silvestris.
Dans toutes les bonnes librairies.
On peut suivre ton actualité sur Internet. Non pas les inévitables réseaux sociaux parce que tu n'y es pas.
Et non.
Mais sur le site des éditions Du Penseur.
Oui, tout à fait.
www.lepenseurtoutattaché.com.
C'est ça. On peut signaler peut-être qu'il va y avoir une parution en poche, a priori, au mois d'août de mes deux livres. Alors, je ne sais pas si ce sera les deux en même temps, mais voilà, il sera peut-être donc un peu plus présent à nouveau en librairie, notamment à Montbarbon, où les deux premiers livres étaient présents.
Bien. Le prochain invité de Roman de Gare, le jeudi 15 mai 2025, sera la romancière ligéroise Christelle Duchamp. Elle présentera son dernier roman, Où tu seras reine, paru le 17 janvier 2025 aux éditions Verso. L'histoire de Maud et d'une chasse au trésor funèbre dans la maison de son enfance qui va l'amener pièce par pièce à exhumer d'inavouables secrets de famille. Anouk, bonne chance pour la suite de tes aventures d'autrice.
Merci.
Et de...
gestionnaire, sylvicultrice.
Voilà, merci. Bonne séance dédicace et puis à bientôt sur Radio B.
À bientôt.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.